Chapitre 5. 4 juillet 1957.
Aujourd'hui, nous fêtons l'Independence Day avec les Borgman. Ils viennent chez nous déjeuner. Esther et Nathan, bien sûr, mais aussi et surtout, Jessie. J'envisage de lui voler un baiser tout à l'heure. Au pire, je serai ridicule jusqu'à notre départ. Au mieux, j'emporterai de San Francisco le plus doux des souvenirs. J'ai l'estomac qui se serre et je me mets à rougir comme un imbécile en imaginant ce que ce sera. Quel goût auront ses lèvres. Je jette un regard alentour. Ma chambre ne ressemble plus à ma chambre. Presque tout est maintenant rangé dans des cartons de déménagement. Seuls quelques vêtements et certains de mes livres les plus chers sont encore à portée de main. Je m'approche de la fenêtre. De là, je vois notre piscine. Je suis le seul à avoir cette vue. La chambre de Lucie et celle de mes parents donnent sur la baie. C'est là, sur la terrasse, que Mam a dressé la table. « Ah, tu es là !» fait Mam en entrant, après avoir frappé trois petits coups à la porte. « Ça fait une heure que je m'époumonne à essayer de te faire descendre. Les Borgman vont arriver. J'aimerais que tu sois présent pour les accueillir. J'arrive. Ça va, Josh ? T'es tout rouge. » Mam me touche le front tandis que je hoche la tête. Rassurée, elle m'embrasse et m'entraîne à sa suite. « Toujours ton éternel look à la James Dean !» se moque ma sœur. « De toi à moi, je crois pas que Jess y soit sensible !» Elle rit et je me mets à rougir, embarrassée. « Lucie, arrête de l'asticoter !» gronde Mam. « Oh, on ne peut jamais rien dire dans cette maison !» se plaint-elle. « Lucie !» soupire Mam. J'ai l'impression de revivre le cauchemar de mon déjeuner d'anniversaire. Les Borgman arrivent. Je tourne vite les talons et me prends les pieds dans la porte-fenêtre. Je m'étale de tout mon long, rectificatif, ce que je vis est pire que le jour de mon anniversaire. Ah, « il fait son intéressant depuis ce matin », juge bon d'expliquer Lucie à nos invités, en croisant les bras sur sa poitrine. « Ça va ?» interroge M. Borgman, tandis que je me relève précipitamment, rouge comme une pivoine. Je suis incapable d'aligner deux mots. « Tu t'es fait mal, Josh ?» demande Jessie d'une voix inquiète, ce qui a le don de faire descendre le sang de mon visage à mon entrejambe. J'attrape au vol le regard horrifié de ma sœur. Je bande et je suis littéralement mort de honte. « C'est la chaleur !» invoque ma mère en essayant de me trouver une excuse. Mais je ne suis plus là pour la suite. Mon corps a recours une deuxième fois depuis le début de l'été à la perte de conscience. Cette fois, devant Jessie Borgman. Quand je reviens à moi, je suis allongé sur le canapé. J'entends les bruits de conversation, les couverts qui raclent les assiettes. Après une inspection rapide de mon entrejambe, redevenue normale, je me lève. En passant par la cuisine, je m'asperge le visage. Je suis en train de me sécher avec un torchon quand Mam rentre avec un saladier vide. « Je venais justement voir comment tu te sens. Ça va, Mam ?» « Il faut que tu manges quelque chose. Nous avons gardé une côte de bœuf. Il y a des saucisses, de la salade et... Je préfère rester à l'intérieur. Pas question. Il fait super beau. Et nous avons du monde, je te le rappelle. Allez, ouste !» En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, ma mère me colle un pichet de limonade entre les mains. Je n'ai plus le choix. Dad et Nathan sont en pleine conversation au bout du jardin. Ils contemplent les bateaux qui entrent et sortent de la baie en un balai incessant. On entend leur sirène. Sitôt Mam rassise, elle et Esther se remettent à discuter. Je m'assois près d'elle, gardant dans ma ligne de mire ma sœur et sa copine qui glousse. « Lucie, tu arrêtes ça immédiatement !» ordonne Mam d'une voix sévère. Et miracle, Lucie ne moufte plus. Jessie plonge le nez dans son assiette. Et le repas se poursuit alors que mon père rapporte une énième fournée de viande grillée. Très vite, la conversation s'oriente vers une sortie en bateau, sur notre petit voilier. Dans 2 jours, il ne sera plus à nous. Dad a trouvé un acquéreur, puisqu'il est inutile de nous en encombrer au Nouveau-Mexique. J'ai plein de souvenirs sur ce bateau, mais je ne veux pas les accompagner. Je déteste les au revoir. Je hais le Nouveau-Mexique. » Sans attendre le départ des adultes, ma sœur et Jessie partent s'entraîner au bord de la piscine. J'aide à débarrasser, puis mon père annonce qu'ils sont prêts à partir. « Tu préviens les filles !» ajoute ma mère en m'embrassant. « Et s'il te plaît, dis à Jessie de nous attendre ici, renchérit Esther. » J'acquiesce, réponds oui à la question d'Esther, et d'un coup l'effervescence retombe. J'entends Lucie et Jessie rire aux éclats. De loin, je les regarde enchaîner les figures acrobatiques censées encourager l'équipe de football du collège lors du prochain championnat. Moi, ça m'aurait plutôt déconcentré de les voir faire. Car même si j'en veux encore à Lucie de m'avoir foutu la honte, si je suis honnête, je dois reconnaître qu'elles sont l'une et l'autre très belles. Ma sœur tout en jambes est aussi blonde que Jessie et brune, avec une poitrine généreuse. Elles sautent comme des cabris autour du pool house. Je ne bouge pas encore. J'espère que Lucie va aller chercher quelque chose dans la maison et me laisser quelques minutes seule à seule avec Jessie. Mais cela ne se produit pas. Elles s'allongent sur les transats. Elles ont l'air épuisées. Je m'approche, comme je l'ai promis à Mam et Esther. Ils sont partis faire du bateau. Et tu dois attendre leur retour, Jessie.
Merci pour l'info, messager Shapiro, Aura et ma sœur.
Merci, Josh. J'attendrai ici.
Je ne trouve rien à dire et reste planté comme un béné.
Hey, Josh, fait Lucie au moment où je fais demi-tour. Tu vas te baigner ou pas?
Je dis non de la tête. L'idée de me retrouver en maillot de bain à côté de Jessie ne me semble pas des plus lumineuses.
Je vais aller faire du vélo avec Tom.
Cool, réplique ma sœur.
On a la piscine, rien que pour nous.
Tu viens, Jessie? On va se changer.
Elle passe devant moi en trombe et je les entends chahuter dans les escaliers. J'ouvre la porte du garage, décroche mon vélo et saute sur ma selle. Arrivé devant chez mon copain, je mets ma bécane sur sa béquille et je sonne. Longtemps. Rien. Pas un bruit. Je fais le tour de la maison en gueulant.
Tom! Tom!
Mais je dois me rendre à l'évidence, il n'est pas là. Je ne me souviens pourtant pas qu'il m'ait dit qu'il devait partir. Bref, je retourne sur mes pas et remarque enfin que la DeSoto, Fire Dome des Anderson, n'est pas dans l'allée. Quelle guigne! Je n'ai pas envie de retourner chez moi tout de suite et de me retrouver aux prises avec deux filles de 16 ans. Mais j'ai encore moins envie d'aller à la cabane tout seul. Je réfléchis. Mais à part Tom et la cabane, je ne sais pas trop quoi faire. Je remonte un vélo et prends le chemin des écoliers pour rentrer, en faisant plein de détours. Ça passe le temps. La maison est silencieuse, mais rien d'anormal à ça. Il est encore trop tôt pour que les parents soient rentrés. Lucie et Jessie doivent encore être au bord de la piscine. Je monte dans ma chambre, je décide de me mettre en maillot et de profiter moi aussi du soleil de cette belle journée. Je jette un œil par la fenêtre. L'équipement de Pom-Pom Girls gît dans un coin et les sodas sont posés sur une petite table entre les deux chaises longues. Je ne vois ni Jessie ni Lucie. J'ôte mon jeans et mon slip et enfile mon maillot. Le bleu marine, celui que je préfère. Puis je regarde à nouveau par la vitre de ma chambre. À travers le carreau, je vois Lucie et Jessie. Elles sont dans l'eau toutes les deux. Ma sœur est dans un coin contre le bord. Jessie lui dégage le visage en replaçant derrière son oreille une mèche de ses cheveux. Lucie lui sourit. Elles sont très proches l'une de l'autre. Jessie s'avance encore un peu plus, réduisant alors l'espace entre elles deux à néant. Jessie Borkman est en train d'embrasser ma sœur. Et ma sœur, Lucie Shapiro, lui rend son baiser. Je veux me détacher de la fenêtre, mais je n'y parviens pas. Une foule de sentiments m'assaille. J'ai honte d'avoir bandé tout à l'heure. Je suis jaloux de Lucie. Je suis témoin de quelque chose que je ne devrais pas voir. Mon cerveau refuse d'enregistrer l'info et me fait le coup de « Ai-je bien vu ce que j'ai vu ? Impossible !» D'autant que dans la minute qui suit, ma sœur sort de l'eau et tord ses cheveux pour enlever le trop-plein d'eau. Jessie est immobilisée au milieu du bassin sur le dos. Elle fait la planche. Je décide d'en avoir le cœur net et descends les escaliers. Moi aussi, j'ai besoin de me rafraîchir. Je cours jusqu'au jardin, jette ma serviette sur les dalles au bord du bassin et saute dans la piscine. Jessie boit la tasse. Lucie m'engueule. Ouf, tout est comme avant. « T'es vraiment naze comme type, Josh !» dit ma sœur, tandis que je leur fais un florilège de mes plus beaux sauts et plongeons. « Bah, laisse-le, » rétorque Jessie, qui est maintenant elle aussi sortie de l'eau. Je pense que ces évanouissements à répétition lui ont enlevé les deux neurones qui lui restaient, affirme Lucie en feuilletant un Life magazine de Mam. Jessie attrape aussi un magazine. Leurs lunettes de soleil sur les yeux, elles me snobent. Dire que j'ai envisagé d'embrasser Jessie. Je suis un sombre idiot. Je repars dans la maison.
Chapitre 6. 15 juillet 1957. Départ pour Holoman.
10 jours plus tard, nous nous entassons dans la voiture. Scooper Nong est couché entre Lucie et moi sur la banquette arrière. Finalement, à part Tom, je ne regrette plus de partir. Ma sœur, elle, se planque derrière ses lunettes de soleil. Elle ne les quitte plus depuis une semaine. Elle dit qu'elle a une allergie. Je n'y crois pas trop. Je suis le seul à avoir roulé une larme sur sa joue lorsque nous passons devant chez les Borgman et que mon père joue du klaxon. Je m'en fiche et laisse par la vitre entièrement descendue le vent caresser mon visage. Il y a 900 miles pour arriver à Santa Fe, notre destination finale. Dad pense qu'on va en avoir pour une quinzaine d'heures. Il est 8 heures du matin, le soleil tape déjà fort. C'est à 23h12, je regarde ma montre, que nous franchissons les barrières du Holoman Aerospace Medical Center. Dans 48 minutes, mon père deviendra officiellement le responsable en chef du centre de médecine aérospatiale sur l'Air Force Base d'Holoman. C'est pour faire la nique aux Russes que les États-Unis d'Amérique, par l'entremise de la NASA, s'apprêtent dans le plus grand secret à lancer un programme dont le nom de code est Mercury. L'enjeu, nous a rapidement expliqué mon père dans la voiture, est la conquête spatiale. Je ne réalise pas vraiment. Je sais juste que ma vie est en train de changer. Comme toujours, les chemins empruntés sont mystérieux. Le 16 juillet au matin, je me réveille dans un autre endroit. La veille au soir, nous avons logé chez le colonel et sa famille. Je m'étire. J'enfile mes vêtements. Ma sœur et mes parents sont déjà levés. Ils m'attendent pour aller visiter notre nouvelle maison. Pour la première fois de ma vie, j'habite très, très près de la base militaire, dans un quartier réservé aux familles des hommes travaillant pour la NASA. Notre nouvelle maison est plus grande que celle de San Francisco. Elle ressemble à une hacienda en ocre jaune. Tout est de plein pied. Je reçois l'autorisation de choisir ma chambre le premier. Je prends celle qui donne sur l'arrière de la base. Je défais vite mes cartons et alors que les femmes de soldats aident ma mère pour l'installation, je sors me dégourdir les jambes. J'emmène Scooper Nong et nous faisons le tour de notre nouvel environnement. Le soldat qui garde l'entrée, le même qu'hier soir, me reconnaît et me salue. Je lui rends son bonjour de la main. À San Francisco, Dad nous avait expliqué en quoi consisterait sa nouvelle mission. Il allait diriger une équipe de chercheurs, d'ingénieurs et de soigneurs qui auraient en charge des animaux qui seraient soumis à une batterie de tests. Depuis toujours, les animaux sont ma passion et Dad, pour faire passer la pilule du déménagement, m'avait promis que je pourrais venir aussi souvent que je le voudrais au labo. Je me dis que c'est un bon test pour vérifier s'il a tenu parole. Je m'approche du garde. Il rentre dans la cahute. « Le commandant en chef Shapiro m'a demandé de vous remettre ce badge, » me dit-il en ressortant. « Il vous donne l'accès au laboratoire numéro 6, qui se trouve à l'arrière du bâtiment. Vous pouvez y aller quand vous le souhaitez. » Il regarde le chien d'un air contrit. « Pour le chien, je n'ai reçu aucun ordre. »« Merci, je vais le ramener. » Mon père a tenu parole. Je fourre le badge dans la poche arrière de mon short. Ce petit bout de carton me rend heureux. Scoop ! Scooper Nong, qui reniflait je ne sais quoi, arrive au petit trot. Il m'emboîte le pas. Nous partons dans l'autre sens. De tout l'été, je n'ai quasi pas vu ma sœur.
Je veux dire par là que, bien sûr, nous prenions nos repas ensemble, mais nos vies se sont séparées à ce moment-là. J'ai 13 ans. Elle en a bientôt 17. Jouer ou simplement être avec son petit frère, elle n'en a aucune envie. On n'a jamais parlé du 4 juillet, et les noms et prénoms de Jesse Borgman n'ont plus jamais été prononcés par l'un ou l'autre. Puis août a remplacé juillet. Ma venue sur la base ne pose de problème à personne, et est même plutôt bien accueillie par les chiens que je promène, les chats que je caresse, et les rats que je nourris après les exercices auxquels ils sont assujettis. Je vois mon père évoluer dans son élément. C'est un homme juste, et les gens qui travaillent sous ses ordres le respectent. San Francisco me paraît déjà appartenir à une autre vie. Je pense encore souvent à Tom, mais ne lui écris plus aussi régulièrement. Et puis l'école reprend et la routine s'installe. Cours jusqu'à 14 heures, retour à la maison, goûter devoir, dans cet ordre-là. Puis je prends un livre, regarde la fin des exercices des animaux, avant de m'en occuper. C'est en novembre que les choses s'accélèrent et que les hommes de science commencent à subir des pressions de la part de mon père, qui lui-même reçoit des ordres insistants de la part du haut commandement. Le succès éclatant des Russes avec Sputnik 1 nous cueille tous. Le moral n'est pas au beau fixe. D'autant que Nikita Khrouchtchev, voulant enfoncer le clou et créer l'écart, ordonne le lancement de Sputnik 2, avec à son bord un être vivant. Korolev, le chef du programme spatial russe, essaye sans succès de gagner un peu de temps, car à Moscou, comme ici, les ingénieurs ne savent pas encore comment récupérer le satellite une fois lancé. Mais lorsque Khrouchtchev parle, les Russes s'exécutent. C'est une jeune chienne du nom de Laïka, qui est sacrifiée au nom de la conquête de l'espace. Lorsque je la prends, je refuse de manger pendant une journée. Je trouve ça dégueulasse. Toujours révolté par cette cruauté, je décide à la même période de passer encore plus de temps au laboratoire. J'espère, et je le répète souvent aux ingénieurs, que si à notre tour nous devons envoyer des animaux dans l'espace, alors nous devrons être capables de les faire revenir. Mais mon père et ses hommes ne peuvent évidemment pas me le promettre. C'est au tout début de l'année suivante que le commandement suprême fait l'annonce suivante. Le programme spatial se poursuit, mais cette fois avec des singes. Leur nom, les Astrochimps. Au labo, il faut faire de la place. L'équipe de mon père renvoie les chiens, les chats et les rats vers d'autres antennes de la NASA. Pendant quelques jours, il ne se passe plus rien. Et puis, un matin de février, mon père reçoit l'ordre de partir à Miami, en Floride. C'est là que se trouve le lot de chimpanzés que l'US Air Force vient d'acheter à la Ray Bird Farm. De Miami, mon père appelle son second. Il lui apprend que les singes ne sont pas en très bonne santé. L'un d'entre eux souffre plus que les autres. Il s'agit d'un bébé chimpanzé dont la mère a été tuée par des braconniers dans une forêt camerounaise. Il se laisse mourir. Le lendemain, je suis présent lorsque mon père repasse son coup de fil journalier. Je demande au sergent Glenn de lui parler. C'est difficile pour moi, le téléphone. Mais je me concentre. Mes phalanges blanchissent sur le combiné. Je souhaite prendre des nouvelles du bébé singe. Mon père m'explique qu'il ne fait pas partie du lot et que sans doute demain il sera mort. Je le supplie de ne pas le laisser. Le lendemain, de retour à Holoman, mon père fait mettre les primates en quarantaine. Il refuse de me répondre lorsque je le questionne sur le bébé singe. Je pense qu'il l'a laissé, et je lui en veux énormément. Ce n'est que 3 jours plus tard que j'apprends par le soigneur Harper que mon père a rajouté quelques dollars de sa poche pour embarquer le bébé singe et qu'il l'a sauvé. À son retour le soir, je serre mon père dans mes bras. D'une voix bourrue, il dit « Je ne savais pas s'il allait s'en tirer ou pas. » Les 3 jours ont été décisifs pour sa santé. Il semble être sorti de sa dépression, mais il reste fragile. Je ne voulais pas que tu sois triste en apprenant qu'il n'avait pas survécu.
Triste, je ne le suis évidemment plus. Je suis heureux. Mon objectif désormais est de redonner le goût de vivre au bébé singe.
Chapitre 7. Number 65.
Les gens du labo baptisent le bébé singe Number 65. Je ne sais pas pourquoi. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il a comme tous les autres un dossier médical. Je demande et j'obtiens de mon père la permission de le lire. J'apprends qu'il est né aux environs de la mi-juin. Je décide de ce fait d'en faire mon jumeau d'anniversaire. C'est tout ce qu'il est possible de faire pour le moment. 65 refuse de se laisser toucher, se rencogne dans le fond de sa cage dès que quelqu'un pénètre dans la pièce. Et plus que tout, il déteste être manipulé. Chacune des séances de soins qu'il subit se transforme en une véritable torture. La salle s'emplit de ses cris de peur et de désespoir. Je ne peux rien faire pour l'aider. Alors je quitte la pièce, les yeux embués. Ce n'est qu'une fois le travail des soigneurs fini, qu'une fois qu'il est ausculté, lavé, nourri, que je reviens dans la salle où il effectue sa quarantaine. Depuis le début, mon rituel est le même. Je m'assois sur le sol face à sa cage et je lis, sans lui prêter plus attention que ça. J'ai toujours un bouquin sur moi, et l'objet semble le fasciner. Je tourne les pages plus fort que de raison pour attirer son attention, et ça marche. Parfois, il s'approche des barreaux pour regarder à quoi je suis occupé. Si par malheur, je lève trop vite la tête, alors il se renfonce dans sa cage et ne bouge plus. Nous sommes prêts, lui et moi, pour repartir à zéro. Mais je suis un garçon patient. Je l'ai toujours été. Jamais je ne cherche à le brusquer. Jamais je ne le force à quoi que ce soit. Jamais je ne m'approche plus près de sa cage ou feins de l'ouvrir. Je pense qu'il enregistre tout ça et qu'au final, ce sera payant. Je l'espère, mais me force à ne rien attendre en retour. Quoi qu'il en soit, cette fichue quarantaine me paraît interminable, d'autant que la sienne dure plus longtemps. À la mi-mars, tous les autres singes sont sortis des salles de soins, guéris. 65, lui, est toujours chétif, couvert de puces et sans appétit. À la bibliothèque de l'école, j'emprunte un livre sur les primates et j'apprends à sa lecture que les guenons touchent en permanence leurs petits, qu'elles les épouillent et jouent avec eux pour les stimuler et les intéresser à leur environnement. Le lendemain, je demande à mon père l'autorisation d'ouvrir la cage. À mon grand soulagement, son oui est immédiat. Il avait remarqué que 65 était moins perturbé quand j'étais dans les parages et que les soins n'étaient plus autant un rapport de force quand je parvenais à établir avec lui un contact visuel. Concrètement, cela ne change pas grand-chose. Je continue à lire au labo, mais cette fois, la cage ouverte. J'apporte dans mon sac à dos des fruits frais que Mam met de côté pour 65. Je sais qu'elle espère secrètement que je succombe moi aussi à l'attrait d'une pomme ou d'une banane. Mais bon, les fruits et moi, ça fait deux. Le son de ma voix, comme le bruit de mes pas, lui sont désormais familiers, et avant même que je n'entre dans la pièce, il tient ses barreaux à deux mains et me regarde, comme pour me saluer.
Bonjour, 65.
Je referme ensuite la porte, sors les fruits frais de mon sac, les dépose sur le sol à 3-4 mètres de lui. Maintenant, 65 et moi sommes parfaitement synchronisés. Il sait qu'après avoir déposé les fruits, je vais me diriger vers sa cage que je vais ouvrir. Il ne fait plus comme au début, se précipitant apeuré vers le fond. Non. Maintenant, c'est d'un pas tranquille qui se rend à l'opposé de l'ouverture. La cage ouverte, je m'assois face à lui, le dos droit, plaqué contre le mur. Depuis le début, je lui explique et lui détaille chacun de mes gestes, lentement. Ce qui convient parfaitement à mon rythme de bègue. Lui ne se montre jamais impatient. Alors, comme j'avais osé le faire avec Tom lorsque nous chantions dans sa chambre ou dans notre cabane, je commence à lire à haute voix. Je lis pour remplir le labo. Je lis pour lui, pour moi. Tous les jours, je me demande ce que sera son premier geste de singe libre. En pariant avec moi-même, la mise revient toujours sur un bout de banane grignotée. J'y crois dur comme fer. Ce n'est qu'au bout de 26 jours du rituel, entrée dans la pièce, fruits déposés, cage ouverte, lecture à haute voix, qu'il se décide enfin à s'aventurer au dehors. Je retiens mon souffle. Je n'ose pas le regarder directement. Alors je le fais par en dessous. 65 descend de sa cage en s'agrippant au barreau. Il est tout pelé, bien trop fluet. Je fais un drôle de bruit en avalant ma salive. Je lève les yeux. Je crains de l'avoir effrayé. Il me fixe de ses grands yeux pleins d'intelligence. Nos regards s'accrochent. Il est des pactes qui se scellent sans mots. Ce qui se passe est inimaginable pour moi. Il ne s'agit pas d'amitié, mais bien d'amour. Dès cet instant, je l'aime, sans condition et pour toujours. 65 se dirige vers les fruits, mais déjoue mes pronostics. Il dépasse les fruits et s'approche de moi. Je suis comme pétrifié. De sa main, il frôle mes cheveux et caresse ma joue. Puis il remonte dans sa cage, serein. Son premier geste de singe libre fait de moi, avant l'heure, un primatologue.